Parking Nomade.
Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouskois de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci, à l'émission, dans un premier temps, nous recevons M. Éric Simard, romancier, nouvelier et diariste, qui est venu à l'UQAR dans le cadre des conférences du baccalauréat en lettres et créations littéraires et qui a accepté de venir nous parler de son dernier livre, Le mouvement naturel des choses, son journal publié chez AMAC, une division de Septentrion. Dans un deuxième temps, nous allons enchaîner avec une capsule d'histoire littéraire. Nous recevrons M. Claude Lacharité qui va nous parler d'une légende qui court au sujet de Rabelais. Rabelais aurait-il été un élève de Jacques Cartier? Enfin, dans un troisième temps, nous allons reparler avec Éric Simard et, pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission, nous allons aborder ses lectures phares et l'influence de certains livres ou certains auteurs dans sa démarche d'écrivain. En fin d'émission, nous aurons le plaisir d'entendre un extrait du journal « Le mouvement naturel des choses » et nous aurons la chance, encore une fois, d'entendre l'auteur lui-même nous le lire. Bonjour Éric et bienvenue à l'émission.
Bonjour Camille.
D'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de la réécriture de ce genre très particulier qu'est le journal. J'aimerais savoir comment s'est structuré votre livre. Moi, j'avais l'impression que vous aviez suivi trois fils d'Ariane, si je peux m'exprimer ainsi, vos amours et vos amitiés, votre passion pour la lecture et le cinéma et l'écriture ou la recherche d'un éditeur pour un premier livre. Autrement dit, quand on a comme matériau brut un journal intime qui comporte des milliers de pages, qui s'étale sur 8 ans et qu'on doit en faire un manuscrit littéraire, qu'est-ce qu'on garde?
Ouais, c'est une bonne question. Je pense que le mot clé dans la question, c'est la matière brute. Moi, je voulais la garder brute pendant longtemps parce que c'est un projet qui s'est étalé sur plusieurs années. Je voyais mes journaux s'accumuler et je voyais de la matière littéraire. Mais quand j'ai décidé d'en faire un livre, moi, je pensais garder le côté brut. Je voulais garder le côté brut.
D'accord.
Mais un peu comme un premier jet de roman ou de nouvelle, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas garder le côté brut tant que ça. Mais ça, ça a pris du temps. Il a fallu plusieurs versions.
Et les versions se sont étalées sur combien d'années de réécriture?
Je sais, plusieurs années. Ça a pris à peu près 10 ans entre l'idée de faire quelque chose avec mes journaux. J'avais même l'idée en 93. C'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, mais ça faisait juste 4 ans que j'écrivais un journal. J'ai commencé à 20 ans, en 1989. Quand même, l'idée a germé en 93, mais l'idée est revenue vraiment forte il y a à peu près 7-8 ans après une rencontre avec Bruno Roy, qui publiait, lui, son journal dérivé chez XYZ. Et après y avoir parlé, là, je suis revenu à mon idée de faire quelque chose. Et là, j'en avais quand même. Là, j'avais beaucoup de cahiers. Je ne savais pas au début, mais c'est en lisant texte après texte qu'il y a quelque chose qui se dessine. C'est quand même une masse informe, mais il y a quelque chose qui se dessine. À chaque fois que je lisais un extrait, il y a quand même un bout que je me disais, ça, c'est pertinent.
Ouais.
Donc là, j'ai commencé à sortir ces bouts-là, à les transcrire, justement, à les taper sur mon ordi. Donc là, la matière s'est accumulée. Au départ, je voulais faire 1989 à 2004. C'était un projet unique, mais j'avais trop de matière, même si je prenais des courts extraits. C'était trop volumineux. Ça aurait donné un livre de 1000 quelques pages. Et au départ aussi, je ne voulais pas faire un journal chronologique. Je voulais faire des éphémérides.
Le premier
titre, c'était éphéméride. Donc, moi, j'ai lu mes journaux comme des éphémérides. Je lisais chaque 1er janvier, puis là, je prenais un extrait de chaque 1er janvier. Ça, c'est le premier projet que j'ai présenté à ma directrice littéraire, ma collègue Marie-Michel. Et elle a osé me dire que ça ne fonctionnait pas. C'était comme une fausse bonne idée. C'était trop déconstruit.
Trop éclaté pour que le lecteur suive.
Exactement.
D'accord.
Et là, j'étais découragé parce que j'ai travaillé quand même peut-être une couple d'années là-dessus sur mes éphémérides. Et là, j'ai tout fait du copier-coller. J'ai mis ça en ordre chronologique. Mais vu que je n'avais pas lu mon journal en ordre chronologique, les extraits ne fonctionnaient plus.
Bon.
Donc, il a fallu que je relise tout, que je change les extraits. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, un coup que j'ai eu cette chronologie-là, je voulais toujours garder le côté brut. Je touchais presque à rien. Parce que je voulais garder un peu l'innocence de mes 20 ans. Et là, ma collègue m'a dit, Oui, c'est mieux, mais en même temps, ça manque de contextualisation.
Ah.
Le rythme est un peu assuré. Là, j'étais découragé un peu. Là, je voulais pas trop retravailler mon texte. Donc, c'est il y a peut-être 2-3 ans que j'ai accepté que ce soit une matière brute et que je devais la retravailler, que j'oublie que c'est un journal.
Ah, d'accord.
Et là, j'ai eu un plaisir. C'est là que l'auteur est enfin entré en scène.
Mmh.
Et là, je l'ai pris à bras-le-corps, mon journal, et j'ai osé retravailler, contextualiser, tout en gardant l'esprit.
Mmh.
Cet esprit brut-là, je pense qu'il est encore là.
Ah oui, il est encore là.
Oui, bon, donc c'est ce que je voulais. Donc, par rapport aux extraits, quand je relisais, je me disais toujours, si je ne suis pas capable de me remettre en situation il y a 20, mm-hmm. une vingtaine d'années, je ne garde pas l'extrait. Quand j'étais capable de me souvenir du moment, de toute manière, ce qu'on inscrit dans notre journal, c'est des choses marquantes.
Oui.
La plupart du temps, j'étais capable de me remettre en situation.
D'accord.
Et ça allait facilement. Là, je me souvenais de la scène, j'exprimais pas juste des émotions, parce que c'est ça dans
non,
un journal.
Oui, hein? C'est ça la difficulté, l'écueil.
Oui. Exactement, parce qu'on va exprimer une émotion sur ce qu'on vit, mais on ne décrira pas l'événement qu'on vit.
Mm.
Et donc, c'est ce travail-là. Puis après, le rythme est venu par la suite, bon, le peaufinage. Donc, c'est vraiment d'étape en étape que ça a donné le résultat qui a été publié,
oui,
finalement.
C'est un travail magistral. Ensuite, Éric, je vais vous poser la question que se posent sans doute tous vos lecteurs. Est-ce qu'on va avoir la suite? Parce qu'on arrive en 1997, le narrateur vient de vivre un deuil amoureux pénible et on espère avec lui qu'il va enfin rencontrer quelqu'un qu'il mérite.
Oui, il va avoir une suite.
Bon,
déjà que j'avais trop de matière, donc j'ai été obligé de le couper. Donc, je l'ai volontairement arrêté à 97 parce que je sais que moi, dans ma vie, en 98, oui, j'ai fait une rencontre quand même
D'accord.
marquante. Donc, le deuxième tome, c'est 98-2004.
Bon. On a hâte.
Donc, on revient au projet initial de 89 à 2004, mais
oui.
Je l'ai coupé en deux.
D'accord.
Et c'est pour ça que j'ai installé aussi certains personnages. Je savais qu'ils allaient être importants dans le deuxième tome.
Ah, bien, c'est intéressant. Par curiosité aussi, j'aimerais savoir si le fait de savoir que vous allez publier encore votre journal, est-ce que ça change l'écriture ou le rapport à l'écriture quand vous écrivez votre journal quotidien?
Depuis un an, oui. Depuis que le mouvement naturel des choses est prêt, c'est plus un journal de création qu'un journal personnel.
Ah.
Et là, je sais déjà que le troisième tome va être 2005-2012. Parce qu'en fin décembre 2012, je savais que j'étais à la fin d'un cycle.
Ah,
donc là, je suis comme dans un nouveau cycle et je n'écris pas mon journal de la même manière. Je choisis plus. Et même quand j'écris, je sais ce que je vais retravailler peut-être dans 10 ans.
Ah, ben c'est vraiment fascinant. Merci beaucoup, Éric Simard.
Merci.
Espérance, mon cœur en enfance désire et attend l'inconnu. Mon cœur en adolescence, ce n'est pas que l'absence d'une ombre incertaine entrevue qui traverse en mes rêves sans un mot d'adieu, a laissé dans mes yeux l'interminable. Mon cœur est un vagabond, il garderait le monde en lui. Mon cœur est un vagabond, il veut garder le monde en lui.
Bonjour Claude, merci d'accepter de venir nous parler aujourd'hui de cette rumeur fascinante concernant Rabelais. J'ai vendu le punch, en quelque sorte, en début d'émission, mais je rappelle ici notre rumeur littéraire du jour à nos auditeurs et j'ai très hâte d'entendre vos réponses. Semble-t-il qu'on a longtemps prétendu que François Rabelais, auteur de Pantagruel et Gargantua, aurait connu Jacques Cartier, le découvreur du Canada, et qu'il aurait même été son élève. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet?
Eh bien oui, en fait, c'est une légende urbaine tenace, semble-t-il. En fait, il y a, vers la fin de la vie de Rabelais, deux éditions du Carre-Livre qui paraissent coup sur coup en 1548 et en 1552. C'est la dernière œuvre que François Rabelais fera paraître.
Mm-hmm.
Et entre les deux versions, il y a un certain nombre de variantes marquantes, notamment pour ce qui est du nom des vents, comme D'accord. il s'agit évidemment d'une navigation en mm-hmm. mer, il est normal qu'il soit question très souvent de vent. Mm-hmm. Et au 16e siècle, en fait, il y avait deux grandes façons d'appeler les vents. Il y avait une nomenclature que l'on appelait la nomenclature du levant, mm-hmm. qui était utilisée par les marins de la Méditerranée, et par ailleurs, une autre nomenclature pour les marins de l'Atlantique qu'on appelait donc la langue du ponant. Et ce qu'on constate entre 1548 et 1552, c'est un changement radical. Rabelais, qui avait tendance à appeler les vents par leur nom méditerranéen, mm-hmm. va passer en 1552 à des noms plutôt qui sont ceux employés par les marins de l'Atlantique, donc la langue du ponant.
D'accord.
Et donc, c'est ce qui a amené certaines personnes à imaginer que Rabelais avait dû connaître quelqu'un qui avait, mmh. Je dirais, une vaste connaissance de la navigation dans l'Atlantique. Et donc, l'idée est venue spontanément de penser à Jacques Cartier, le découvreur du Canada, d'autant que ce sont évidemment des contemporains.
Mais Claude, est-ce qu'on sait qui est le premier à avoir répandu cette légende sur Rabelais et quelles étaient ses motivations?
Oui, en fait, cette légende de Rabelais, élève de Cartier, nous vient d'un érudit, le premier historien de Saint-Malo, qui mm-hmm. s'appelait Jacques de Romais, qui a fait paraître en 1628 un livre qui s'intitule « De l'Antiquité de la ville et cité d'Alette ». Et c'est évidemment dans cet ouvrage qu'il prétend que Rabelais aurait connu personnellement Cartier, qu'il lui aurait rendu visite à Saint-Malo et que c'est de lui qu'il aurait appris donc tous les termes de la marine, pour utiliser l'expression même de Jacques de Romais. Sauf qu'évidemment, c'est un homme qui a des motivations qui sont, comment dirais-je, très évidentes. Il veut faire l'éloge de son terroir, de Saint-Malo, et l'idée qu'il a, c'est de rapprocher donc Cartier de Rabelais. Il faut mm-hmm. voir que Cartier, même si aujourd'hui il est très connu, au début du 17e siècle, c'est un personnage qui est pratiquement oublié parce qu'il a été complètement supplanté dans la mémoire collective par Samuel de Champlain, qui a fondé mmh. Québec en 1608 et qui est devenu donc le grand découvreur, le grand fondateur d'une nouvelle colonie. Cartier est pratiquement oublié, alors que Rabelais, lui, est toujours un écrivain connu au début du 17e mmh. siècle. Et l'idée que Cartier aurait pu enseigner une bonne partie du contenu du quart livre à Rabelais, c'est une façon de magnifier mmh. L'importance de Saint-Malo et d'un des enfants du pays, donc le découvreur malouin Jacques Cartier.
D'accord, c'est très intéressant. Est-ce que cette légende d'un Rabelais élève de Cartier a eu une grande fortune?
Eh bien, étonnamment, oui. En fait, c'est Abel Lefranc, professeur au Collège de France au début du 20e siècle, qui va donner, en fait, à cette légende une diffusion extraordinaire. Hein? C'est un peu le pape des études rabelaisiennes au début mmh. du 20e siècle. Et tout le monde, évidemment, prenait pour argent comptant tout ce que disait mmh. Abel Lefranc au début du 20e siècle. Il va, en fait, consacrer tout un livre au quart livre pour essayer de voir, justement, quel est le référent historique derrière cette navigation fabuleuse. D'accord. Et il va avoir tendance à replier la fiction de Rabelais sur les voyages de Jacques Cartier en faisant en réalité du récit du quart livre simplement une allégorie qui reprendrait toutes les étapes et tous les aspects des voyages de Cartier dans le Nouveau Monde. Hein. Mmh. Il imagine par exemple que le capitaine du vaisseau du quart livre, qui s'appelle Jamais Braillé, c'est en fait le double de Jacques Cartier parce que, par exemple, le père de Jacques Cartier s'appelait Jamais, ce qui n'est évidemment pas une raison très, très convaincante. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à sa suite, il va y avoir donc le célèbre folkloriste québécois que tout le monde connaît, Marius Barbeau, mm-hmm. qui va aller encore plus loin dans cette direction et qui va même, en fait, réécrire à sa manière le récit de Rabelais du quart livre pour mieux le faire coller à la réalité des voyages de Jacques Cartier, comme si donc tout le roman n'était rien d'autre qu'une sorte de roman à clé qui évoque sous des noms, je dirais, de conventions les personnages de Cartier, de son capitaine, mmh. des Amérindiens qu'il rencontre lors de leur traversée d'Atlantique.
Eh bien, et même si Rabelais n'a pas connu personnellement Cartier, il était assurément au fait de ses voyages. À votre avis, qu'est-ce qu'il pouvait penser de la colonisation de l'Amérique en général et des expéditions de Cartier en particulier?
Alors, je pense que Rabelais devait être, comme beaucoup d'humanistes, extrêmement critique hein, par rapport à ce projet de colonisation. Mmh. Dans le cinquième livre, qui est un roman publié de façon posthume et qui est tiré en fait des brouillons de la main même de Rabelais, mmh. il y a une scène célèbre avec un personnage très étrange qui s'appelle Ouidir et qui forme une série d'élèves. Et ce Ouidir, c'est un personnage monstrueux qui est aveugle et paralytique, incapable de se déplacer, mais qui a comme particularité d'avoir plein de langues dans la bouche. Hein. C'est donc un personnage qui enseigne enseigne à ses élèves l'art de témoigner de ce dont on n'a pas été le témoin oculaire. Mmh. Et il se trouve que parmi, évidemment, les élèves de Whittier, il y a un certain Jacques Cartier. Mmh. Hein? Alors, ça peut nous paraître surprenant que Rabelais, finalement, accuse Cartier d'avoir, en quelque sorte, témoigné par Whittier de ce qu'il nous rapporte dans ses récits de voyage, puisque Cartier est quand même bel et bien allé dans le Nouveau Monde. Mais il y a des parties, évidemment, des récits de voyage de Cartier qui ne sont que, je dirais, la relation de rumeurs qu'il a entendues, notamment de la bouche du chef de Nakona, hein, le fameux royaume de Saguenay. Cartier lui-même ne l'a jamais vu. Et tout ce qu'il en sait, évidemment, c'est les détails que le chef de Nakona lui a fournis. D'accord. Et il est évident que Cartier est probablement un peu dubitatif par rapport à l'existence même de ce royaume de Saguenay. Mais par contre, pour lui, c'est un argument essentiel à faire valoir auprès du pouvoir royal pour obtenir le financement d'un autre voyage. Hein. Ouais. Il faut, en quelque sorte, essayer de convaincre le roi par là où il est sensible. Et évidemment, le roi, comme tous les princes de l'Europe de l'époque, veut évidemment mettre la main sur des métaux précieux. On est toujours à la recherche d'un Eldorado, mais cette fois-là, en Amérique du Nord. Et Cartier comprend que, évidemment, le royaume de Saguenay, ça peut faire miroiter cette possibilité d'enrichissement pour le roi. Mais évidemment, les lecteurs de l'époque ne sont pas tous dupes et Rabelais certainement pas, qui lui, évidemment, considère que c'est un mensonge éhonté. Mmh.
Merci infiniment, Claude Lacharité, d'avoir partagé cette étonnante question d'histoire littéraire avec nous.
Merci, Camille.
La terre tremble à l'autre bout de la planète, alors que chez moi le calme plat me terrasse. D'autres guerres charrient la mort violente, et moi qui regarde en paix mangeant des glaces. Ah, s'il y avait une échelle de la douleur, je connaîtrais le degré de ma souffrance. Est-ce que la douleur de celui qui n'a rien se compare à celle de qui a tout perdu? Quelle est la douleur la plus forte du monde? Je crois que la douleur pourrait être revue, car dans la revue, le mal ne paraît pas.
Nous sommes de retour avec Éric Simard pour le troisième segment de notre émission. Éric, si vous deviez identifier deux ou trois auteurs marquants qui ont joué un grand rôle dans votre parcours de lecteur ou d'écrivain, quels seraient-ils?
Anne Hébert, Hervé Guibert et Marguerite Duras.
Et pourquoi?
Anne Hébert et Marguerite Duras, j'avais peut-être 18-19 ans quand je les ai découvertes et j'avais commencé à écrire. Et ça va avoir l'air prétentieux, mais quand je les ai lus, je reconnaissais un peu mon univers et ça me rassurait. Donc là, je me suis mis à lire, pas leur œuvre au complet, mais une bonne partie de leur œuvre. Et ça m'a donné un peu l'élan pour continuer d'écrire. Je me disais, OK, on peut écrire comme ça.
Oui, on peut faire éclater la syntaxe, on peut...
Oui, les non-dits.
Les non-dits, les tabous peut-être aussi.
Non, Hervé Guibert, oui. D'accord. Mais Anne Hébert et Marguerite Duras, c'était plus la concision. D'accord. Dire beaucoup avec peu de mots. Oui. Et aussi, ils sont beaucoup dans l'humain, dans quelque chose de brut. Oui. Entre autres, le torrent, les fous de bassin, puis bon, la plupart de l'œuvre de Marguerite Duras. Oui. Donc, ça m'a beaucoup rassuré.
Puis peut-être nous parler un peu d'Hervé Guibert.
Hervé Guibert, c'était une rencontre forte. Et c'est peut-être là que je me suis rendu compte que j'aimais peut-être l'écriture de l'intime, l'autofiction. Et aussi, moi, je suis dans la génération X et les années SIDA. Mm-hmm. Et quand j'ai fait la rencontre d'Hervé Guibert, ça doit être en 90, je commençais mon métier de libraire.
Vous en parlez d'ailleurs dans votre journal.
Oui, c'est très présent. C'est qu'on nous a fait peur sur le SIDA. Ouais. Puis lui, il arrive avec un témoignage très clinique, pas mièvre, sur son expérience de SIDA. Bon, je l'ai découvert avec L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, son œuvre quand même à... un de ses livres qui l'a propulsé. Puis, et c'est un témoignage aussi sur ces années-là. Et après, j'ai presque lu toute son œuvre. Et lui, c'est vraiment le... Je pense que je m'identifiais à lui. Je me projetais. Je ne voulais pas que ça m'arrive. Puis j'aimais son écriture aussi.
Bon, d'accord. Merci beaucoup. En contrepartie, si on se demandait quelles seraient les œuvres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque d'Éric Simard, et vous dites des titres en tête.
J'ai des auteurs en tête. Douglas Kennedy et Julia Glass. C'est deux auteurs qui font du roman populaire, mais du bon roman populaire. On a le goût on embarque là-dedans, puis on est vraiment interpellé comme lecteur. On a juste le goût de continuer, mais ça demeure, bon, c'est presque du roman de madame, mais en même temps avec une qualité qu'on ne trouve pas souvent. Et moi, ça, ils m'interpellent, ces deux auteurs-là. Donc, on ne s'attendrait pas nécessairement à ça.
On serait surpris de les voir dans votre bibliothèque.
Oui, on serait peut-être surpris, mais on serait surpris de voir à quel point j'ai du livre jeunesse chez nous. J'ai beaucoup d'albums jeunesse et des romans pour ados. Et ça, je suis devenu un libraire spécialisé en jeunesse au cours de mes années comme libraire. Je suis éloigné de ça, mais j'en ai beaucoup. J'ai gardé les meilleurs trucs jeunesse que j'avais lus. Mm-hmm. Donc, ça peut être étonnant aussi.
Puis est-ce que vous auriez le rêve peut-être d'écrire un jour un livre jeunesse?
Ben j'en ai un dans mes tiroirs. Il faudrait que je le retravaille. J'ai un projet aussi pour les 0-3 ans. Puis j'ai une amie qui est directrice littéraire pour la jeunesse. Puis elle veut absolument qu'on fasse quelque chose avec ça. Ah. Mais j'ai besoin d'elle. Je ne sais pas comment écrire pour les 0-3 ans.
Les 0-3 ans, les mots sont restreints, mais en même temps, c'est un beau défi. J'aimerais peut-être, comme vous êtes directeur littéraire, hein, on n'en a pas parlé, mais vous êtes directeur littéraire chez AMAC, une division de Septentrion. J'aimerais qu'on parle peut-être de l'importance de la lecture dans la formation de l'écrivain, parce que vous avez ce rapport aux jeunes écrivains aussi comme directeur littéraire, puis c'est important de lire quand on veut écrire.
Oui, oui. Moi, je connais un écrivain qui lit jamais, je trouve ça aberrant. Et moi, je pense que je suis devenu un pas pire directeur littéraire parce que je suis un bon lecteur avant tout.
Oui, c'est vrai.
Et j'ai peaufiné un peu mon expérience de directeur littéraire sans le savoir en étant libraire et en lisant beaucoup, une large palette de productions. Donc, j'étais assez ouvert. Et aussi, il faut être instinctif. Moi, je suis très instinctif. Je le sens quand il y a il y a des faiblesses dans un manuscrit. Moi, je suis pas un intellectuel. Je suis un intellectuel, oui, mais je suis pas je regarde pas ça avec des yeux d'un intellectuel. D'accord. Je suis vraiment, c'est au niveau de ma sensibilité, comme quand je lis aussi un roman. Donc, c'est la même chose qui participe. Quand j'écris aussi, je suis beaucoup dans l'humain, dans ce que les mots, comment les mots m'interpellent. Mais j'aurais pas pu être directeur littéraire à 25 ans.
Non, effectivement, c'est donc, toute l'expérience littéraire qui fait ce que vous êtes aujourd'hui.
Et de vie aussi.
Merci beaucoup, Éric Simard.
Merci.
Alors, Éric Simard nous lit maintenant un extrait du Mouvement naturel des choses.
1993. Il tonne fort au-dessus de la ville. Il pleut à Sio. J'aime entendre le vacarme de l'orage et le bruit que fait la pluie en tombant. Ça semble banal, mais je n'aurais jamais pensé écrire ça un jour. Plus jeune, je détestais ce genre de température, surtout quand on était au chalet. À chaque coup de tonnerre, j'avais l'impression que tout allait s'écrouler autour de moi à cause des montagnes qui le faisaient résonner. Ma peur était irrationnelle et difficile à contrôler. Je retenais mon souffle jusqu'à ce que ça se calme pendant que mon cœur palpitait trop rapidement dans ma poitrine. Pour une troisième soirée d'affilée, j'ai travaillé sur mon roman Martel en tête. Enfin, l'envie d'écrire me revient. C'est fluide en plus. Je n'ai pas à me forcer, les mots viennent tout seuls. En plus de l'écriture, je lis tous les soirs avant de me coucher. C'est une source certaine d'inspiration. Curieux et insatiable, je ne peux pas me contenter d'un seul livre. J'en lis plusieurs en même temps, en passant d'un univers à l'autre sans difficulté. De toutes les lectures que j'ai pu faire dernièrement, une retient mon attention. « Mémoire d'un jeune homme devenu vieux » de Gilles Barbedette. J'ignorais tout de cet écrivain avant de me plonger dans ce petit livre remarquable dans lequel il fait ses adieux à la vie à travers les fragments de ses journaux et de ses notes. Il y parle de son amour pour Jean, de sa maladie et de sa mort prochaine. Sa parole est empreinte d'une sagesse exemplaire. Le ton est juste et senti, jamais larmoyant. On a accès à la réalité d'un homme qui sait que ses jours sont désormais comptés. Pour moi, c'est une rencontre aussi forte que lorsque j'ai découvert les livres d'Hervé Guibert. Leur destin se ressemble étrangement. Je n'aurai jamais assez de mots pour décrire ce que ces témoignages littéraires me font ressentir au plus profond de mes tripes. C'est comme si j'entrais en contact direct avec la psyché d'autres êtres humains. Et tout ce qui a trait au sida me trouble, je ne peux pas le nier. La lecture du livre de Gilles Barbedette me donne envie de trier tous mes journaux, du premier au dernier, d'en extraire les meilleurs passages pour éventuellement en faire un livre. Peut-être que ce qui vient d'être écrit s'y retrouverait. La rue Boyer est belle ce soir. Elle revêt un air d'été. Tous les appartements ont ouvert leurs portes et leurs fenêtres au beau temps. On entend le bruit des téléviseurs ou des radios. À leur insu, les voisins profitent de l'occasion pour nous faire partager leur quotidien.
Merci beaucoup à notre écrivain invité, Éric Simard. J'aimerais également remercier mes collaborateurs qui sont parfois aussi mes co-animateurs, Claude Lacharité, Martin Robitaille et Catherine Gosselin. Merci également à Pierre Vignola à la technique. Je vous rappelle que l'émission Sous l'influence des livres a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain.